concurrence étatique et innovation jointe, l'invention de l'Europe. La prospérité économique occidentale est-elle entièrement due à la domination militaire des États européens et à l'emprise coloniale qu'ils exercent sur le reste de la planète au cours du XVIIIe et du XIXe siècle? Il est évidemment très difficile de répondre de façon univoque à une question aussi complexe, d'autant plus que la domination militaire a également contribué à engendrer des innovations technologiques et financières utiles en tant que telles. Dans l'absolu, on peut imaginer des trajectoires historiques et technologiques qui auraient permis aux pays européens de connaître la même prospérité et la même révolution industrielle en l'absence de la colonisation, par exemple dans le cadre d'une planète Terre réduite à une grande île continent européenne, sans conquête extérieure possible, sans grande découverte des autres parties du monde, sans extraction d'aucune sorte. Pour concevoir un tel scénario, il faut cependant faire preuve d'une certaine imagination et être prêt à effectuer toute une série d'hypothèses technologiques audacieuses. En particulier, Kenneth Pomerantz a bien montré dans son livre sur « La grande divergence » à quel point la révolution industrielle qui prit place à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle au Royaume-Uni, puis dans le reste de l'Europe, reposait de façon centrale sur l'extraction à grande échelle de matières premières, en particulier de coton, et de sources d'énergie, notamment sous forme de bois, venu du reste du monde, dans le cadre d'un schéma d'organisation coercitif et colonial. Pour Pomerantz, les régions les plus avancées de Chine et du Japon étaient autour de 1750-1800 dans un état de développement relativement comparable aux régions correspondantes d'Europe de l'Ouest. En particulier, on observe dans les deux cas des formes assez proches de développement économique, fondée d'une part sur une croissance démographique et agricole soutenue, rendue possible notamment par l'amélioration des techniques de culture, ainsi que par la progression considérable des surfaces cultivées au travers des défrichements et des déforestations, et d'autre part sur des processus comparables de proto-industrialisation, en particulier dans le secteur de l'industrie textile. Pour Pomerantz, deux éléments essentiels vont conduire à des trajectoires divergentes à partir de 1750-1800. Tout d'abord, la contrainte plus prégnante liée à la déforestation européenne, ainsi que la présence de gisements de charbon idéalement situés, en particulier en Angleterre, menèrent à l'utilisation très tôt en Europe d'autres formes d'énergie que le bois et au développement précoce des technologies correspondantes. Ensuite, et surtout, la capacité fiscale et militaire des États européens, largement issue de leur rivalité passée et renforcée de surcroît par les innovations technologiques et financières induites par la concurrence interétatique, va leur permettre d'organiser au cours des XVIIIe et XIXe siècles une division internationale du travail et des approvisionnements particulièrement profitables. Concernant la déforestation, Pomerantz insiste sur le fait que l'Europe était à la fin du XVIIIe siècle tout près de buter sur une contrainte écologique de grande ampleur. Au Royaume-Uni comme en France, au Danemark comme en Prusse, en Italie ou en Espagne, les forêts avaient disparu à vive allure au cours des siècles précédents, passant d'environ 30-40% des surfaces autour de 1500 à guère plus de 10% en 1800, 16% en France, 4% au Danemark. Dans un premier temps, le commerce de bois avec les régions encore boisées d'Europe de l'Est et du Nord permet de pallier en partie les manques, mais très vite, cela ne suffit plus. On observe également une déforestation graduelle en Chine entre 1500 et 1800, mais de façon moins marquée, notamment du fait d'une plus grande intégration politique et commerciale entre les régions les plus avancées et les régions boisées de l'intérieur. Dans le cas européen, la découverte de l'Amérique, le commerce triangulaire avec l'Afrique et les échanges avec l'Asie vont débloquer les contraintes. L'exploitation des terres d'Amérique du Nord, des Antilles et d'Amérique du Sud, sur lesquelles a été transportée la force de travail venue d'Afrique, permet de produire les matières premières, notamment sous forme de bois, coton et sucre, utilisés pour alimenter les profits des colons et les fabriques textiles en plein développement à partir de 1750-1800. La maîtrise militaire des voies navales les plus éloignées permet également le développement de complémentarités à grande échelle, La nourriture des esclaves des Antilles et du sud des États-Unis actuels est ainsi financée par les exportations textiles et manufacturières britanniques vers l'Amérique du Nord, elles-mêmes permises par le bois et le coton venus des plantations. Ajoutons qu'un tiers des textiles utilisés pour vêtir les esclaves venaient d'Inde au XVIIIe siècle et que ces importations en provenance d'Asie, textiles, soieries, thé, porcelaine, etc., étaient payées pour une large part par l'argent venu d'Amérique depuis le XVIe siècle. Vers 1830, les importations de coton, de bois et de sucre reçues par l'Angleterre en provenance des plantations correspondent, d'après les calculs de Pomerantz, à l'exploitation de plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, soit entre 1,5 et 2 fois le total des terres cultivables présentes sur le sol du Royaume-Uni. Sans le déblocage colonial de la contrainte écologique, il aurait fallu trouver ailleurs ces sources d'approvisionnement. Il n'est certes pas interdit d'imaginer des scénarios historiques et technologiques permettant à une Europe autarcique de connaître la même prospérité industrielle. Mais cela demande de l'imagination. Par exemple, de fertiles plantations de coton entretenues par des paysans anglais du Lancashire ou des arbres poussant jusqu'au ciel, près de Manchester. En tout état de cause, il s'agirait véritablement d'une autre histoire, d'un autre monde, sans grand rapport avec celui dont nous sommes issus. Il paraît plus pertinent de prendre comme donnée le fait que la révolution industrielle est issue de l'interaction étroite entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, et de réfléchir à des modes d'organisation alternatifs de ces interactions et de cette histoire connectée. En l'occurrence, ces mises en contact ont été organisées de 1500 à 1900 sous la forme de la domination militaire et coloniale européenne, avec le transport forcé de main-d'œuvre servile d'Afrique en Amérique et aux Antilles, l'ouverture à la canonnière des ports d'Inde et de Chine, et ainsi de suite. Mais elles auraient très bien pu être organisées de dizaines de façons différentes, par exemple sous la forme d'échanges équitables de migration libre et de travail rémunéré, en fonction des rapports de force politico-idéologiques en vigueur, de même d'ailleurs que les relations économiques mondiales au XXIe siècle peuvent être structurées par de multiples systèmes de règles distincts. De ce point de vue, il est frappant de constater à quel point les institutions et stratégies guerrières qui ont mené l'Europe au succès au XVIIIe et XIXe siècle avaient peu à voir avec les vertueuses institutions recommandées par Adam Smith en 1776 dans « La richesse des nations ». Dans ce livre fondateur du libéralisme économique, Smith conseillait notamment au gouvernement l'adoption d'impôts faibles et de budgets équilibrés, pas ou peu de dettes publiques, le respect absolu du droit de propriété et le développement de marchés du travail et des biens aussi unifiés et concurrentiels que possible. Or, de tous ces points de vue, les institutions en vigueur en Chine au XVIIIe siècle étaient, selon Pomerantz, beaucoup plus smithiennes que celles appliquées au Royaume-Uni. En particulier, les marchés étaient plus fortement unifiés en Chine. Le marché des grains fonctionnait sur une aire géographique plus importante, et la mobilité du travail y était sensiblement plus forte. Cela tenait aussi à une plus grande emprise des institutions féodales en Europe, au moins jusqu'à la Révolution française. Le servage subsista en Europe de l'Est jusqu'au XIXe siècle, alors qu'il aurait presque totalement disparu en Chine au début du XVIe siècle. Et il existait encore des restrictions à la mobilité à l'ouest du continent au XVIIIe siècle, en particulier au Royaume-Uni et en France, dans le cadre des Poor Laws et de la grande autonomie laissée aux élites et cours seigneuriales locales pour imposer des règles coercitives aux classes laborieuses. Les propriétés ecclésiastiques partiellement gelées aux échanges étaient également plus importantes en Europe. Enfin et surtout, les impôts étaient beaucoup plus légers en Chine, à peine 1-2% du revenu national, alors qu'ils approchaient de 6-8% du revenu national en Europe à la fin du XVIIIe siècle. L'Empire Qing appliquait une stricte orthodoxie budgétaire. Les impôts finançaient rigoureusement les dépenses, sans déficit. À l'inverse, les États européens, à commencer par le Royaume de France et le Royaume-Uni, malgré le niveau élevé de leurs impôts, accumulaient des dettes publiques considérables, en particulier en temps de guerre, car les recettes fiscales ne suffisaient jamais à couvrir les dépenses exceptionnelles liées au conflit, gonflées en outre des paiements d'intérêts liés aux dettes précédentes. À la veille de la Révolution française, la dette publique avoisinait une année de revenu national en France comme au Royaume-Uni. À la suite des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, 1792-1815, la dette publique britannique dépassa même 200% du revenu national, à tel point que près d'un tiers des impôts acquittés entre 1815 et 1914 par les contribuables britanniques, principalement par les classes modestes et moyennes, fut consacré au paiement de cette dette et de ses intérêts, pour le plus grand profit des propriétaires qui avaient prêté pour financer les guerres. Nous reviendrons sur ces épisodes quand nous évoquerons, dans les prochaines parties, les problèmes posés par les dettes publiques et leur remboursement au XXe et XXIe siècle. À ce stade, notons simplement que ces dettes abyssales ne semblent pas avoir nui au développement européen. De même que les impôts européens plus élevés, les dettes ont permis de bâtir une capacité étatique et militaire qui s'est avérée décisive pour la montée en puissance de l'Europe. Ces impôts et ces dettes auraient certes pu servir à des choses plus utiles que l'armée dans le long terme, par exemple des écoles, des hôpitaux, des routes, des assainissements d'eau, et il aurait sans doute été préférable de faire payer des impôts aux propriétaires britanniques plutôt que leur permettre de s'enrichir encore davantage par la dette publique. Dans le contexte de violente concurrence interétatique de l'époque et avec un pouvoir politique aux mains des propriétaires, ce sont cependant les dépenses militaires et le financement par la dette qui ont été choisis, et l'ensemble a contribué à asseoir la domination européenne sur le reste du monde. Des Chinois smithiens, des Européens trafiquants d'opium. Dans l'absolu, les paisibles et vertueuses institutions smithiennes auraient sans doute pu avoir du bon si elles avaient été adoptées par tous les pays au XVIIIe et XIXe siècle. Encore que cette vision smithienne sous-estimait l'utilité des impôts et de la puissance publique pour le financement d'investissements productifs et négligeait l'importance de l'égalité éducative et sociale pour le développement. Mais dans un monde où certains pays développent une capacité militaire supérieure à d'autres, les plus vertueux ne sont pas toujours ceux qui s'en sortent le mieux. L'histoire des relations entre Européens et Chinois est de ce point de vue exemplaire. À partir du début du XVIIIe siècle, compte tenu de l'épuisement de l'argent américain qui leur avait permis d'équilibrer jusqu'ici leur balance commerciale avec la Chine et l'Inde, les Européens s'inquiètent de ne plus rien avoir à vendre en échange de leurs importations de soieries, de textiles, de porcelaine, d'épices et de thé en provenance des deux géants asiatiques. Les Britanniques entreprennent alors d'intensifier la culture d'opium en Inde, afin d'exporter cette production en Chine auprès des revendeurs et consommateurs qui en ont les moyens et en sont friands. C'est ainsi que le trafic d'opium prend de l'ampleur au cours du XVIIIe siècle et que l'EIC établit en 1773 son monopole sur la production et l'exportation d'opium depuis le Bengale. Face à l'énorme progression des volumes échangés et à la pression de son administration et de son opinion éclairée, l'Empire Qing, qui depuis 1729 tentait de faire respecter l'interdiction de consommation d'opium à des fins récréatives, pour des raisons évidentes de santé publique, finit par passer à l'action. En 1839, l'empereur ordonne à son envoyé à Canton de faire cesser le trafic et de brûler immédiatement le stock d'opium. À la fin de l'année 1839 et au début de 1840, une violente campagne de presse anti-chinoise se mit en place au Royaume-Uni, financée par les marchands d'opium, afin de dénoncer l'insupportable violation du droit de propriété et l'inacceptable remise en cause des principes du libre-échange. L'empereur Qing avait visiblement mal mesuré la progression de la capacité fiscale et militaire du Royaume-Uni, et la première guerre de l'opium, 1839-1842, conduisit à une déroute rapide des Chinois. Les Britanniques envoyèrent une flotte qui pilonna Canton et Shanghai, ce qui leur permit d'obtenir en 1842 la signature du premier des traités inégaux, expression popularisée par Sun Yat-sen en 1924. Les Chinois versèrent une compensation financière pour l'opium détruit et les frais de guerre, tout en accordant des privilèges légaux et fiscaux aux marchands anglais et en leur cédant l'île de Hong Kong. L'État Qing se refusait cependant toujours à légaliser officiellement le commerce de l'opium. Le déficit commercial anglais s'accroissait jusqu'à ce que la Seconde Guerre de l'opium, 1856-1860, et le sac du palais d'été par les troupes franco-britanniques à Pékin en 1860 conduisent finalement l'empereur à se soumettre. L'opium fut légalisé, et surtout l'État chinois dut accorder aux Européens en 1860-1862 une série de comptoirs commerciaux et de concessions territoriales, ainsi qu'une lourde indemnité de guerre. Il fut également imposé, au nom de la liberté religieuse, que les missionnaires chrétiens puissent parcourir librement le pays sans que l'on envisage que des missionnaires bouddhistes, musulmans ou hindous disposent du même droit en Europe. Ironie de l'histoire, c'est à la suite de ce tribut militaire imposé par les franco-britanniques que l'État chinois dut abandonner son orthodoxie budgétaire fmicienne et fut contraint d'expérimenter pour la première fois une dette publique importante. Cette dette fit boule de neige et obligea les Qing à augmenter les impôts pour rembourser les Européens, puis à leur céder une part croissante de la souveraineté fiscale du pays, suivant un scénario colonial classique de coercition par la dette que nous avons déjà rencontré pour d'autres pays, comme au Maroc. S'agissant des très lourdes dettes publiques internes contractées par les États européens pour financer leurs guerres intérieures au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, il faut également souligner le rôle central qu'elles jouèrent pour le développement des marchés financiers. Cela vaut notamment pour la dette britannique, issue des guerres napoléoniennes, qui demeure à ce jour l'une des plus élevées de l'histoire. Plus de 2 années de revenu national et de production intérieure brute britannique, ce qui est considérable compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale en 1815-1820, et dont le placement auprès des propriétaires et épargnants britanniques exigea le développement de solides réseaux bancaires et d'intermédiation financière. Nous avons déjà évoqué le rôle de l'expansion coloniale dans la création des premières sociétés par action d'envergure mondiale, à commencer par l'EIC britannique et la VOC néerlandaise, qui étaient des compagnies à la tête de véritables armées privées et exerçant des pouvoirs régaliens sur de vastes territoires. Les nombreuses et coûteuses incertitudes liées aux expéditions maritimes contribuèrent aussi au développement de compagnies d'assurance et de fret qui jouèrent un rôle décisif par la suite. Il faut ajouter que l'endettement public lié aux guerres européennes joua également un rôle moteur dans les processus de titrisation et d'innovation financière. Certaines de ces expériences se conclurent par des faillites retentissantes, à commencer par la fameuse banqueroute de Low en 1718-1720, qui avait notamment pour origine la concurrence à laquelle se livraient les États français et britanniques pour se débarrasser de leurs dettes respectives en offrant aux porteurs de titres des actions dans des compagnies coloniales plus ou moins délirantes, comme la Compagnie du Mississippi, qui précipita l'effondrement de la bulle financière. Sur le moment, la plupart de ces projets de société par action reposait sur l'exploitation de monopoles commerciaux ou fiscaux de type colonial et s'apparentait davantage à du brigandage sophistiqué et militarisé qu'à de l'entrepreneuriat productif. Il reste qu'en développant des techniques financières et commerciales à l'échelle de la planète, les Européens contribuèrent à mettre en place des infrastructures et des avantages comparatifs qui allaient s'avérer décisifs à l'âge du capitalisme industriel et financier mondialisé du XIXe siècle et du début du XXe siècle.